Chapitre 3. Le jour suivant, rue Sixtine, l'hôtel des ventes était plein de gens du monde, venus pour assister à la joute annoncée. Il pleuvait fort. Dans les salles humides et basses, entrait une lumière grise. Le long des murs étaient disposés en ordre plusieurs meubles de bois sculpté, plusieurs grands diptyques et triptyques de l'école toscane du XIVe siècle, quatre tapisseries flamandes représentant l'histoire de Narcisse, pendaient jusqu'à terre. Les maïoliques de métaux occupaient deux longues vitrines. Les étoffes, pour la plupart ecclésiastiques, étaient soit dépliées sur les sièges, soit amoncelées sur les tables. Les antiquités les plus rares, les ivoires, les émaux, les cristaux, les gemmes gravées, les médailles, les monnaies, les livres d'heures, les manuscrits enluminés, les argenteries ciselées étaient réunies dans une haute armoire vitrée, derrière la table des commissaires-priseurs. Une odeur étrange, produite par l'humidité du lieu et par toutes ces vieilles choses, emplissait l'air. Lorsqu'André Sperel y entra, en compagnie de la princesse de Ferentino, il y eut un tremblement secret. « Est-elle arrivée déjà ? » pensait-il. Et vite, ses yeux la cherchèrent. Déjà, elle était arrivée. Elle était assise devant la table du commissaire-priseur, entre le chevalier Daville et Don Philippe Del Monte. Elle avait posé sur le bord de cette table ses gants et son manchon de loutre, d'où sortait un bouquet de violettes. Elle tenait à la main un petit bas-relief d'argent, attribué à Carados au Fopa, et l'examinait avec une grande attention. Les objets passaient de main en main le long de la table. Le commissaire-priseur en faisait l'éloge à haute voix. Les personnes, debout derrière la file des chaises, se penchaient pour regarder. Puis l'enchère commençait. Les chiffres se suivaient rapidement. Le commissaire-priseur criait sans cesse « C'est bien vu, bien entendu !» Quelque amateur, stimulé par ce cri, jetait un chiffre plus fort en regardant ses concurrents. Alors le commissaire-priseur criait, le marteau levé « Une fois, deux fois, trois fois !» Et il frappait sur la table. L'objet appartenait au dernier offrant. Un murmure se propageait alentour. Puis l'enchère recommençait. Le chevalier Daville, un gentilhomme napolitain de taille gigantesque et de manière presque féminine, célèbre collectionneur et connaisseur en maïolique, donnait son avis sur chaque pièce importante. À cette vente cardinalice, il y avait trois articles réellement supérieurs. L'histoire de Narcisse, la coupe de cristal de Roche et un aume d'argent ciselé, ouvrage d'Antoine Pollaiuolo, donné par la seigneurie de Florence au comte d'Urbain en 1472 pour récompense des services rendus au temps de la prise de Voltaire. « Voici la princesse !» dit Philippe Del Monte à Hélène. Hélène se leva pour saluer son amie. « Déjà dans l'arène ?» s'écria la princesse de Ferentino. « Déjà ! Et Françoise ?» Elle n'est pas encore venue. Quatre ou cinq jeunes hommes élégants, le duc de Grimiti, Robert Castelldieri, Ludovic Barbarisi, Jean Routolo s'approchèrent. D'autres survinrent. Le fouettement de la pluie couvrait les paroles. Hélène tendit la main à Sperelli, franchement, comme à tous les autres, et il eut la sensation que ce serrement de main l'éloignait d'elle. Hélène lui parut froide et grave. Tous ses rêves se glacèrent et s'abîmèrent en une seconde. Les souvenirs de la soirée précédente se brouillèrent. Les espérances s'éteignirent. Qu'avait-elle ? Ce n'était plus la même femme. Elle était vêtue d'une longue pelisse de loutre et portait sur la tête une espèce de toque, aussi de loutre. Dans l'expression de son visage, il y avait quelque chose d'âpre et de presque méprisant. Pour la coupe, dit-elle à la princesse, il faut encore attendre. Et elle se rassit. Chaque objet passait par ses mains. Un centaure gravé en creux dans une sardoine, œuvre très fine qui provenait peut-être du musée dispersé de Laurent le Magnifique, l'attenta. Elle prit part aux enchères. Elle communiquait son offre au commissaire-priseur, d'une voix basse, sans lever les yeux sur lui. Un moment vint où les compétiteurs s'arrêtèrent, et la pierre lui fut adjugée à bon compte. « Excellente acquisition !» dit André Sperelli, qui se tenait debout derrière la chaise de l'acheteuse. Hélène ne put réprimer un léger sursaut. Elle prit la sardoine et la lui fit voir, en levant la main à la hauteur de l'épaule, sans se retourner. C'était réellement une très belle chose. « Ce pourrait être le centaure copié par Donatello, » ajouta André. Et dans son âme, en même temps que l'admiration pour la chose belle, surgit l'admiration pour le noble goût de la dame qui la possédait maintenant. « Elle est donc en tout une élue, » pensa-t-il. « Quel plaisir elle donnerait à un amant raffiné !» Dans son imagination, elle grandissait. Mais, en grandissant, elle se dérobait à lui. La pleine sécurité de la veille au soir se changeait en une sorte de déconfort et les doutes primitifs renaissaient. Il avait trop rêvé pendant la nuit, les yeux ouverts, dans un bain de félicité sans bornes, tandis que le souvenir d'un geste, d'un sourire, d'un air de tête, d'un pli de vêtements, le prenait et l'enlaçait comme un filet. Maintenant, tout ce monde imaginaire s'écroulait misérablement au contact de la réalité. Il n'avait pas revu dans les yeux d'Hélène ce salut singulier qui avait tant occupé sa pensée. Confondu parmi les autres, il n'avait obtenu d'elle le privilège d'aucune distinction. Pourquoi ? Il se sentait humilié. Toute cette sotte gens d'alentour l'irritait. Elle l'irritait aussi, ces choses qui captivaient l'attention d'Hélène. Il l'irritait, ce Philippe Delmonte qui se penchait de temps en temps vers elle pour lui murmurer sans doute quelques médisances. La marquise d'Athélète survint. Elle était gaie comme d'habitude. Son rire, au milieu des hommes qui déjà l'entouraient, fit retourner vivement Don Philippe. « Voici la Trinité au complet, » dit-il en se levant. André prit aussitôt la place vide près de la duchesse. Le subtil parfum des violettes lui vint jusqu'aux narines et il murmura « Ce ne sont plus celles d'hier soir. »« Non, » dit Hélène avec froideur. Dans sa mobilité ondoyante et caressante comme le flot, il y avait toujours la vague menace d'un froid imprévu. Elle était sujette à des rigidités soudaines. André se tut sans comprendre. « C'est bien vu, bien entendu !» criait le commissaire-priseur. Les chiffres montaient. La joute était ardente autour du home de Polaïoulo. Même le chevalier Daville entrait en lice. Il semblait que l'air s'échauffât peu à peu et que le désir de ces choses belles et rares s'empara de tous les esprits. Le délire s'étendait comme une contagion. À Rome, cette année-là, l'amour du bibelot et du bric-à-brac avait grandi jusqu'à l'excès. Tous les salons de la noblesse et de la haute bourgeoisie étaient encombrés de curiosités. Toutes les dames taillaient les coussins de leurs divans dans des chasubles ou dans des chapes et mettaient leurs roses dans un pot de pharmacie ombrien ou dans une coupe de calcédoine. Les salles de vente étaient les rendez-vous de prédilection et les ventes étaient très fréquentées. Dans l'après-midi, à l'heure du thé, les dames, par élégance, arrivaient en disant « Je viens de la vente du peintre Campos. Grande animation. Des plats hispano-arabes magnifiques. J'ai eu un joyau de Marie Leczinska. Voyez. » « C'est bien vu, bien entendu. » Les chiffres montaient. Les amateurs se bousculaient autour de la table. Entre les nativités et les annonciations giottesques, les élégants faisaient assaut de beau langage. Dans cette odeur de moisissure et d'anticaille, les dames apportaient le parfum de leur fourrure et surtout celui des violettes, parce que tous les manchons en contenaient un petit bouquet, selon la mode charmante d'alors. La présence de toutes ces personnes répandait dans l'air une tiédeur délicieuse, comme dans une chapelle humide où il y aurait eu beaucoup de fidèles. Dehors, la pluie continuait de tomber et la lumière de s'affaiblir. On alluma les petites flammes du gaz et les deux clartés diverses luttaient. Une fois, deux fois, trois fois. Le coup de marteau mit Lord Humphrey Heffield en possession du home florentin. L'enchère recommença sur de petits objets qui passaient de main en main le long de la table. Hélène les prenait délicatement, les examinait et les déposait devant André sans rien dire. C'étaient des émaux, des ivoires, des montres du XVIIIe siècle, des bijoux d'orfèvrerie milanaise du temps de Philippe le Mort, des livres d'heures écrits en lettres d'or sur des vélins colorés d'azur. Entre les doigts de la duchesse, ces matières précieuses semblaient acquérir plus de prix. Les petites mains avaient parfois un léger tremblement au contact des choses les plus désirables. André regardait avec intensité, et son imagination transmuait en caresses chaque mouvement de ses mains. Mais pourquoi déposait-elle les objets sur la table au lieu de les lui offrir? Il prévint le geste d'Hélène en tendant la main. Et dès lors, les ivoires, les émaux, les bijoux passèrent des doigts de l'aimé dans ceux de l'amant, à qui il communiquait un délice inexprimable. Il semblait qu'il entrât en ces choses une parcelle du charme amoureux de cette femme, comme entre dans le fer un peu de la vertu d'un aimant. C'était une véritable sensation magnétique de délice, une de ces sensations aiguës et profondes qu'on n'éprouve guère qu'au début de l'amour, et qui, différentes en cela de toutes les autres, paraissent n'avoir ni siège physique, ni siège moral, mais résider dans un élément neutre de notre être, dans un élément intermédiaire et de nature inconnue. André pensa pour la seconde fois, c'est une volupté jamais éprouvée. Une torpeur légère l'envahissait. Peu à peu, il perdait conscience du lieu et du temps. « Je vous conseille cette montre, » lui dit Hélène, avec un regard dont il ne comprit pas d'abord la signification. C'était une petite tête de mort, sculptée dans l'ivoire, avec une extraordinaire puissance d'imitation anatomique. Chaque mâchoire portait une file de diamants et deux rubis scintillaient au fond des orbites. Sur le front était gravée cette devise « Ruit aura » et sur l'occiput cette autre « Tibi Hippolyta ». Le crâne s'ouvrait comme une tabatière, bien que la commissure fût presque invisible. Le battement intérieur donnait au crâne minuscule une inexprimable apparence de vie. Ce joyau mortuaire, offrande d'un artiste mystérieux à son aimé, avait dû marquer les heures de l'ivresse et avertir par son symbole les âmes éprises. En vérité, pour la mesure du temps, la volupté ne pouvait rien souhaiter de plus exquis ni de plus suggestif. André pensa « Me le conseille-t-elle pour nous ?» Et cette pensée ressuscita toutes ses espérances, les fit remonter tumultueusement d'entre les incertitudes. Il se jeta dans l'enchère avec une sorte d'enthousiasme. Deux ou trois compétiteurs acharnés lui donnaient la réplique, entre autres Jean Routolo, qui, ayant pour maîtresse Donna Hippolyte Albonico, était tenté par l'inscription « Tibi Hippolyta ». Bientôt, Routolo et Sperelli restèrent seuls en concurrence. Les chiffres montaient plus haut que la valeur réelle de l'objet, ce qui faisait sourire le commissaire priseur. À un certain moment, Jean Routolo, vaincu par l'obstination de son rival, cessa de répondre. « C'est bien vu, bien entendu !» L'amant d'Hippolyte, un peu pâle, cria un dernier chiffre. Sperelli surenchérit. Il y eut un silence. Le commissaire priseur regardait les compétiteurs. Puis il leva lentement son marteau, regardant toujours. Une fois, deux fois, trois fois. La tête de mort resta au Conte d'Ughenta. Un murmure courut dans la salle. Une ondée de lumière entra par le vitrage et fit resplendir les fonds dorés des triptyques, aviva le front dolent d'une madone siennoise et le petit chapeau gris de la princesse de Ferentino couvert d'écailles d'acier. « À quand la coupe ?» demanda la princesse avec impatience. Ses amis consultèrent le catalogue. Il n'y avait plus d'espoir que la coupe du bizarre humaniste florentin passât aux enchères ce jour-là. La grande concurrence faisait que la vente avançait lentement. Il restait encore une longue liste de menus objets, camées, monnaies, médailles. Plusieurs antiquaires et le prince Stroganov se disputaient chaque pièce. Tous ceux qui attendaient eurent une désillusion. La duchesse de Scherny se leva pour partir. « Adieu, Sperelli, dit-elle, à ce soir peut-être. »«
Pourquoi dites-vous peut-être ? » ?»«
Je ne me sens pas bien. »
« Qu'avez-vous ? »
Sans répondre, elle se tourna vers les autres en saluant. Mais les autres suivirent son exemple. Ils sortaient avec elle. Les jeunes hommes plaisantaient sur le spectacle manqué. La marquise d'Atelet a rié.
mais la princesse de Ferentino paraissait de fort méchante humeur. Les valets de pied qui attendaient dans le corridor firent avancer les voitures comme à la porte d'un théâtre ou d'une salle de concert. « Vous ne venez point chez Loro Miano ?» demanda la marquise à Hélène. « Non, je rentre chez moi. » Elle attendit sur le bord du trottoir que son coupé fût avancé. La pluie se dissipait. Entre les larges nuées blanches, on apercevait quelques intervalles d'azur. Un faisceau de rayons mettait des lueurs sur les dalles. Et la jeune femme, inondée de cette clarté d'un blond rose, dans son magnifique manteau qui tombait avec des plis droits presque symétriques, était très belle. Lorsqu'André entrevit l'intérieur du coupé capitonné de satin comme un boudoir et où luisait le cylindre d'argent plein d'eau chaude, destiné à tenir tiède les petits pieds de la duchesse, le rêve de la soirée précédente lui revint à l'esprit. Être là, avec elle, dans cette intimité si recueillie, dans cette tiédeur faite de son haleine, dans le parfum des violettes fanées, derrière les glaces embuées qui laissent à peine entrevoir les rues couvertes de fange, les maisons grises, la foule obscure. Mais elle pencha légèrement la tête à la portière, sans sourire, et la voiture partit vers le palais Barberini, laissant au jeune homme une vague tristesse, une sorte de langueur découragée. Elle avait dit « peut-être ». Elle pouvait donc ne pas venir au palais Farnèse. Et alors ? Ce doute l'accablait. La pensée de ne pas la revoir lui était insupportable. Déjà, toutes les heures passées loin d'elle lui pesaient. Il se demandait à lui-même « Je l'aime donc déjà tant ?» Son esprit semblait enfermé dans un cercle où tourbillonnaient confusément tous les fantômes des sensations éprouvées en présence de cette femme. Soudain émergeait de sa mémoire, avec une exactitude singulière, soit une phrase d'elle, soit une intonation, une attitude, un mouvement des yeux, la forme d'un divan où elle s'était assise, le finale de la sonate de Beethoven, une note de Mary Dice, la figure du domestique qui se tenait à la portière, une particularité quelconque. Et ces images obscurcissaient par leur vivacité, l'existence courante, se superposaient aux choses actuelles. Il lui parlait mentalement. Il lui disait mentalement tout ce qu'il lui dirait plus tard, en réalité, dans les entretiens futurs. Il prévoyait les scènes, les hasards, les vicissitudes, tous les troubles de l'amour, selon les suggestions capricieuses de son désir. De quelle façon se donnerait-elle à lui la première fois ? En montant l'escalier du palais Zuccari pour entrer chez lui, cette idée lui traversa l'esprit. Elle viendrait là sans nul doute. La rue Sixtine, la rue Grégorienne, la place de la Trinité des Monts étaient presque désertes, surtout à certaines heures. La maison n'était habitée que par des étrangers. Elle pourrait donc s'y aventurer sans crainte. Mais comment l'y attirerait-il ? Son impatience était si grande qu'il aurait voulu pouvoir dire « Elle viendra demain ». Il pensa « Elle est libre, elle n'est pas tenue par la vigilance d'un mari ». Personne ne peut lui demander compte de ses absences, fussent-elles longues, fussent-elles insolites. Elle est maîtresse de tous ses actes, toujours. Subitement, son esprit lui représenta des journées entières, des nuits entières de volupté. Il regarda autour de lui, dans la chambre chaude, profonde, secrète. Et ce luxe intense et rare, fait d'art exclusivement, lui plut pour elle. Cet air attendait sa respiration, ses tapis demandaient à être foulés par son pied, ses coussins voulaient l'empreinte de son corps. « Elle aimera ma maison, pensa-t-il, elle aimera les choses que j'aime. » Cette pensée lui procurait une indicible douceur, et il lui semblait déjà qu'une âme nouvelle, consciente de la joie prochaine, palpita sous les hauts plafonds. Il demanda le thé à son domestique et s'installa devant la cheminée pour savourer à l'aise les fictions de son espérance. Il tira de l'étui la petite tête gemmée et se mit à l'examiner avec attention. À la clarté du feu, la mince denture de diamant brillait sur l'ivoire jaunâtre et les deux rubis illuminaient l'ombre des orbites. Sous le crâne poli résonnait l'incessante pulsation, le battement continu du temps. Ruit aura. Quel artiste pouvait bien avoir eu pour son Hippolyta cette superbe et libre fantaisie de mort, en un siècle où les émailleurs ornaient de tendres idylles les petites montres destinées à marquer pour des sigisbées l'heure des rendez-vous dans des parcs de Watteau, la sculpture révélait une main savante, vigoureuse, en possession d'un style propre. Elle était digne en tout d'un maître du XVe siècle, aussi pénétrant que Verrocchio. « Je vous conseille cette montre. » André souriait un peu en se rappelant les paroles d'Hélène prononcées de si étrange façon après un silence si froid. Certainement, lorsqu'elle avait dit cette phrase, elle pensait à l'amour. Elle pensait certainement au prochain rendez-vous d'amour. Mais pourquoi, plus tard, était-elle redevenue impénétrable? Pourquoi ne s'était-elle plus souciée de lui? Qu'avait-elle? André s'égara dans cette recherche. Pourtant, l'air chaud, la mollesse du fauteuil, la lumière discrète, les reflets changeants du feu, l'arôme du thé, toutes ces agréables sensations ramenèrent son esprit aux erreurs délicieuses. Il allait, rêvant sans but, comme un fantastique labyrinthe. Chez lui, la pensée prenait parfois la vertu de l'opium, elle pouvait enivrer. « Je me permets de rappeler à monsieur le comte qu'il a attendu pour 7 heures au palais Doria, » lui dit à demi-voix son valet de chambre, qui avait aussi pour fonction de lui rafraîchir la mémoire. « Tout est prêt. » Il passa pour se vêtir dans une chambre octogone, le plus élégant vestiaire que pût désirer un jeune seigneur moderne. En s'habillant, il avait pour sa personne une infinité de soins minutieux. Sur un grand sarcophage romain, transformé avec beaucoup de goût en table de toilette, se trouvaient disposés en bel ordre les mouchoirs de batiste, les gants de bal, les porte-cartes, les étuis à cigarettes, les fioles d'essence et 5 ou 6 gardénias frais dans de petits vases de porcelaine azur. Toutes ces choses vaines et frêles sur cette masse de pierre où était sculpté un cortège funèbre, œuvre d'un ciseau merveilleux.